enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le psaume 118. Est-ce que vous avez remarqué que quasiment une chanson sur deux, si ce n'est pas deux chansons sur trois, si vous ouvrez le poste de radio, parle d'amour? Non? C'est pas Édith Piaf qui chantait « Parlez-moi d'amour » Non? C'est pas Édith Piaf, il me semble, hein? Enfin, quelqu'un. Puis je pensais aussi, je me suis dit, mais chansons d'amour, il y en a un qui chantait, mais je ne me souviens plus qui. Ma femme, elle me dit, c'est Claude François, parce qu'elle connaît mieux Claude François. Non, je la charrie. Qui dit « Je suis le mal-aimé ». Vous connaissez cette chanson « Je suis le mal-aimé » Non, ben ça c'est peut-être dans la culture française alors. Enfin, je suis sûr qu'au Québec, il y a des chansons d'amour. Hein, qu'il y a beaucoup de chansons d'amour. Là, il y a un tapage médiatique pour Don Juan, là, actuellement sur Montréal. Je pense que ça vient jusqu'ici. Tout le monde parle d'amour. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et l'apôtre Jean, écrit dans son épître, dans sa première épître, nous dit, dans 1 Jean 4,8, Dieu est amour. Il nous dit même deux fois dans le chapitre 4. Dieu est amour. Non pas Dieu a de l'amour, mais Dieu sait l'amour. Dieu est amour. Dieu, je sais pas comment on pourrait l'expliquer d'une manière métaphysique, mais là, c'est compliqué, mais un mystère, et je peux pas le comprendre. Mais comme si l'apôtre Jean voulait dire Dieu est fait d'amour. Dieu est amour. Et quand on comprend que l'homme est fait à l'image de Dieu, c'est ce que nous explique la Genèse, Dieu nous a fait à son image, selon son image, on comprend alors pourquoi le besoin fondamental de l'homme et de la femme, c'est l'amour. Quand on regarde les déclarations de l'ONU concernant les droits de l'enfant, les droits de la femme, les droits de l'homme, une question qui dit en ce qui concerne les droits de l'enfant, si je me souviens bien, qu'il a le droit d'être aimé. Et ils ont besoin d'amour. Les hommes, les femmes, les enfants ont besoin d'amour. Et c'est même un besoin vital. Il y a eu toutes sortes de scientifiques qui ont fait toutes sortes d'essais. Il y a quelques années, ils avaient voulu faire, je ne sais plus, avec des orphelins, ils avaient fait une expérience de prendre un enfant et lui donner aucun amour. Ben, l'enfant est mort. C'est un besoin vital. On a besoin d'amour. Et si quelqu'un me dit ce matin, « Moi, j'ai pas besoin d'amour !» C'est pas possible. Vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas des martiens. Vous n'êtes pas d'une autre planète. On est bien de la Terre ici, fait à l'image de Dieu. Dieu est amour. Et même si on se protège, même si on met une carapace autour de nous, même si on essaye là de fermer notre cœur au plus profond de nous-mêmes, nous avons besoin d'être aimés. Être aimé des autres, être aimé de Dieu. Dieu nous aime. Et c'est là le grand message de la Bible. Le grand message de la Bible, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il aime le monde. Dieu nous aime. Quelqu'un dira, d'accord, je comprends. Dieu aime le monde. C'est facile de dire Dieu aime le monde en général. Mais c'est plus difficile de dire Dieu m'aime. Toujours plus facile de parler de tout le monde que de soi-même. C'est plus facile de dire, oui, Dieu, il aime tout le monde. Dieu, il a un plan pour tout le monde. Dieu, il parle à tout le monde. Mais vous, personnellement, est-ce que vous pouvez dire ce matin, Dieu m'aime. Je suis certain, assuré, convaincu de son amour. Dans l'évangile de Jean, à plusieurs reprises, Jean parle de lui-même en disant le disciple que Jésus aimait. Souvenez-vous, c'est lors du dernier souper, il nous a dit bon, ben, que Pierre s'adresse au disciple que Jésus aimait, elle lui dit, pose-lui toi la question. Et Jean se nomme le disciple que Jésus aimait. Quand Jésus est sur la croix, il nous a dit que là, il y avait le disciple que Jésus aimait. Quand, après sa résurrection, Pierre est en conversation avec Jésus, il nous a dit que Pierre vit le disciple que Jésus aimait. Alors certains seraient tentés de croire, bon, ben celui-là, il devait être le préféré. Il devait être le chouchou, c'était le plus jeune, ça se comprend. Est-ce que Jésus préférait Jean aux autres? Est-ce que Jésus préférait Jean à Judas, à Pierre, à Jacques. Ah, pourquoi Jean dit le disciple que Jésus aimait? Bon, parce que déjà, à l'époque, et ça, ceux qui font des... Enfin, j'ai lu ça dans un commentaire littéraire, à l'époque, on ne parlait pas de soi-même quand on écrivait un ouvrage. On ne disait pas « moi, Jean, il m'a parlé à moi, moi ». Non, on s'efface. Il n'est pas là pour raconter son histoire, Jean. Il est là pour raconter l'histoire de Jésus. Et ça ne se faisait pas, ce n'était pas poli, c'était inconvenant que de parler de soi-même. Donc on utilisait comme une périphrase pour parler de lui. Matthieu, dans son évangile, quand il va parler de son appel, ben, il dit « Lévi ». Pourtant c'est Matthieu, mais il va s'appeler Lévi. Il prend son nom pour un petit peu s'effacer. Bon, Marc, vous allez dire Marc, c'est pas compliqué, il n'est pas dans les 12. Donc, mais à un moment, il est question, bon, à la fin de l'évangile de Marc, d'un jeune homme qui suivait Jésus de loin, et il semblerait que ce soit lui qui est là, mais il se nomme pas. Luc, bah, Luc n'est pas dans les 12, il n'est pas question de lui dans l'évangile. Mais Jean, lui, va parler de lui-même avec cette phrase « le disciple que Jésus aimait ». Pourquoi ? Parce que Jean se sait aimé de Jésus. Et je suis sûr que si Pierre avait écrit un évangile et qu'il avait fallu parler de lui-même, il aurait dit aussi « le disciple que Jésus aimait ». En tout cas, Jean, quand il écrit son évangile et quand il parle de Jésus, il parle de son Seigneur, il parle de son Sauveur, et il dit « je suis aimé de Jésus ». Notez bien qu'il n'est pas le seul à être aimé. Dans Jean 11, il est question de Lazare, celui que Jésus va ressusciter, sortir du tombeau. Il nous a dit, Lazare, quand on est venu voir Jésus, on lui a dit, Lazare, celui que tu aimes, est malade. Et quand Jésus va s'approcher de Béthanie, on va dire, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Celui que tu aimes, c'était pas Jean, c'était Lazare. Jésus aimait Lazare, Jésus aimait Jean, Jésus aimait les autres. Mais Jean, quand il écrit son évangile, il rend témoignage de cet amour. Il dit, je sais que Jésus m'aime et que je suis le disciple que Jésus aimait. C'est important pour nous ce matin d'être convaincus de l'amour de Dieu à notre égard. Il vous aime. Je propose d'aller dans le psaume 118. Psaume 118. Il y avait dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, et même aujourd'hui encore, parmi les juifs, il y a des psaumes qui sont utilisés plus que d'autres, j'allais dire. Et entre autres, il y a une série de psaumes qu'on appelle le Hallel, qui sont des psaumes que l'on chante pour la fête de Pâques. Même dans l'Évangile, on nous dit que Jésus, après avoir chanté des cantiques, donc il a chanté ces psaumes. Mais parmi ces Hallel, il y a le grand Hallel. C'est le psaume 118. Le grand Hallel. Hallel, Hallel, Hallel. J'ai déjà entendu quelque chose qui ressemble à ça. Alléluia! Ça veut dire quelque chose, Alléluia? Alléluia! Ça veut dire quoi, Alléluia? Oula, il y a plusieurs interprétations. Alléluia! Ça, on pourrait traduire ça par louer Dieu, ou louons Dieu, ou louons l'Éternel, louons Dieu, louer Dieu. Alléluia! Et le grand Hallel, c'est donc un psaume de louange, Hallel, la louange, un psaume de louange que l'on chantait chaque année lors de la fête de la Pâque. Et c'est même un des psaumes que Jésus va le plus citer, le psaume 118. Vous allez dire, ah oui, pourquoi? Ben regardez, dans le psaume 118, il est question d'une porte. Jésus dira, je suis la porte. Dans le psaume 118, il est question de « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Ah, on a entendu ça quelque part quand Jésus est rentré dans Jérusalem. « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Il en est question ici. Dans le psaume 118, il est question de cette pierre d'angle, la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée. Jésus va faire beaucoup de références au psaume 118. Pourquoi? Parce que les Juifs le connaissent, et même, j'allais dire, le connaissent par cœur. Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez par cœur? Est-ce que vous avez appris de la poésie quand vous étiez à l'école par cœur? Si je vous dis, le renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Ça veut dire quelque chose? Eh, mais vous dites corbeau. J'ai pas dit corbeau, moi. J'ai dit renard. J'ai dit juste renard, et vous, vous pensez, il y a un corbeau dans l'affaire. Et il y a un fromage. Et ça fait pareil avec Jésus. Quand Jésus parle du psaume 118, il n'en dit qu'un morceau, mais eux, dans leur tête, c'est tout qui arrive. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui se passe et d'être là dans le contexte. Jésus, quand il va dire la pierre d'angle qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, il cite là le psaume 118, mais eux, ils ne vont pas seulement retenir ce verset-là, mais ils vont se souvenir de tout ce qu'il y a autour. Tout comme ce que je viens de faire, j'ai juste dit le renard, mais vous, vous pensez au corbeau. Et vous dites, il y a un renard, d'accord, il a parlé d'un renard, mais il y a un corbeau dans l'affaire. Et quand Jésus cite un passage de l'Écriture, il y a ce passage, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Alors on y va, psaume 118, louez l'Éternel, en hébreu, alléluia. Vous voyez, vous parlez hébreu, louez l'Éternel, alléluia, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours, que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce qu'on a bien compris? Sa miséricorde dure à toujours. Et tout le monde doit le dire. Qu'Israël le dise, que la maison d'Aaron le dise, que ceux qui craignent l'Éternel le disent, que le monde entier le dise, que l'Église le proclame. Sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui ont un rôle dans le leadership, que ceux qui conduisent les chants, que les pasteurs disent « Sa miséricorde durera toujours ». C'est ce que je veux dire ce matin. Que ceux qui craignent l'Éternel, que ceux qui ne le connaissent pas mais qui ont la crainte de Dieu, puissent comprendre l'amour, sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il est miséricordieux. Et sa miséricorde, elle dure à toujours. Ça veut dire que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Dieu n'a pas changé. Dieu a tant aimé le monde. Oui, c'est au passé, c'est vrai. Dieu a tant aimé le monde. Mais on peut dire aujourd'hui, Dieu aime tant le monde. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas un amour de jeunesse. Ah oui, autrefois, Dieu a tant aimé le monde, à tel point qu'il a donné son Fils. Mais aujourd'hui encore, Dieu aime le monde. Oui, sa miséricorde n'a pas changé, elle dure à toujours. Dieu est amour. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Il y a un verset marqué là sur une Bible qui est à l'entrée, vous l'avez lu? Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et, il y a une suite ou pas? Ah! Là, on a juste le verset, mais on n'a pas le contexte. Et il le sauve de toutes ses détresses. Il le délivre. Là, on est dans le même contexte. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Du sein, alors que j'étais dans la détresse. Que j'étais là, de quoi être dans la crainte, dans le doute, dans le trouble, dans la peur, dans la détresse. J'ai crié à l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel m'a mis au large. Il m'a protégé. Il m'a gardé. Il est pour moi, comme on l'a chanté, une forteresse. Ça fait référence à un psaume là encore. Il m'a mis au large. Il m'a secouru. Il m'a délivré. Pourquoi? Parce que sa miséricorde dure à toujours. Notez bien qu'il n'est pas question ici de mérite. Il n'est pas question ici de droit. Il n'est pas question ici de dire, ben, c'est normal après tout ce que j'ai fait. Non. Le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le malheureux n'est pas, il n'y a pas une petite étoile, vous savez, comme dans les contrats d'assurance, des fois, il y a juste une petite étoile, puis faut lire en tout petit, marqué sauf, malheureux. Sauf si le malheureux s'est rendu malheureux lui-même. S'il s'est mis dans des problèmes tout seul, s'il a cherché les ennuis. Sauf si le malheureux a été hors la loi. Sauf si le malheureux n'a pas respecté les 10 commandements. Sauf si le malheureux... Il n'y a pas de sauf si. Dieu aime. D'un amour inconditionnel. Dieu a tant aimé le monde. Et même, l'apôtre Paul va dire aux Romains, Dieu prouve. Est-ce que c'est nécessaire que Dieu vous prouve qu'il vous aime? Ben, Dieu l'a déjà fait. Dieu prouve son amour. En ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Dieu a prouvé son amour. En ce que, lorsqu'on était encore des pécheurs, on était encore pas aimables. On n'était pas aimables. On n'avait rien pour être aimé. On avait tout pour être rejeté, pour être condamné, selon la justice et la sainteté de Dieu. Mais Dieu nous aime. Et nous a donné Jésus. Et nous a tendu la main, alors qu'on ne le méritait pas. Et c'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la foi, en acceptant simplement le don précieux de Dieu. Si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus, notre Seigneur. Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus. Si quelqu'un n'a pas compris le sens de la venue de Jésus sur la terre et pourquoi Jésus est mort sur une croix, c'est une preuve d'amour. À peine mourrait-on pour dire juste quand, est-ce que vous avez des bons amis? Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour eux? Bon, on va parler des enfants alors. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour vos enfants? Si la maison brûle, et il y a le petit qui est resté à l'intérieur, ah, je ne vais pas y aller là quand même, je risquerais d'être brûlé. On n'écoute pas ça. Hein. On dit sans écouter la chair et le sang, là, c'est le cœur qui parle. Et on est prêt même à prendre des risques, à affronter des dangers, à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce que Dieu a fait. Il n'a pas regardé à ce que ça allait lui coûter, mais parce que là, il voyait l'humanité en train de mourir, en train d'être perdue, que Jésus est venu, s'est donné, s'est livré. Ça, c'est une preuve d'amour. Fallait-il qu'il nous aime pour mourir pour nous, afin que nous ne mourions pas, que nous ne soyons plus perdus, mais que nous soyons au contraire sauvés. Au verset 6, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. » Quelle assurance, mes amis, quand on réalise que Dieu nous aime, que sa miséricorde dure encore, elle dure à toujours. Parce que si Dieu m'aime, on parle de Dieu là, Dieu c'est celui qui peut tout, qui est tout puissant, qui a tout pouvoir, toute autorité, toute domination, sont en dessous de lui. Il est celui qui règne dans les cieux. Si celui qui est tout en haut m'aime, j'ai rien à craindre. Que peuvent me faire des hommes? Vous savez, les enfants, ils comprennent ça très vite. Hein. Même quand ils sont en première année ou en maternelle, s'ils savent que leur papa les aime, même si eux, ils sont pas bien forts, puis qu'il y en a un qui... Tu verras, mon papa, ce qu'il va te faire. Oui, mais mon papa, tu verras ce que mon papa va faire à ton papa. C'est pas eux, c'est leur père. Eux, ils peuvent pas, ils sont pas capables, ils sont pas forts, mais mon père, il est plus fort que le tien. Est-ce que notre père, il est pas plus fort que le prince de ce monde? Moi, je peux rien, je suis trop petit. C'est ça, quelque part. Moi, je peux rien devant la puissance du mal. Mais mon père, il est plus fort que le tien. À un moment, Jean 6, Jésus va dire, vous avez pour père le diable. Eh bien, moi, mon père, il est plus fort que le tien. Et je sais qu'il m'aime, et qu'il prend soin de moi, et qu'il est avec moi. Et vous savez, un père avec son enfant, quand l'enfant crie au secours, quand l'enfant a des problèmes, quand l'enfant est en danger, va pas dire, bon, voyons voir, quel est ton bulletin scolaire? Est-ce que tu as des bonnes notes pour que je m'occupe de toi? Est-ce que tu as été sage? Est-ce que tu as été raisonnable? Quand un enfant est dans la détresse, c'est le cœur qui répond. Et Dieu est celui qui a un cœur. Il est amour. Et voyez-vous, on peut pas raisonner Dieu à la manière des hommes. Déjà, les hommes sont capables d'aimer. À combien plus forte raison Dieu? Et même Dieu va dire, quand bien même vous seriez capable, quand bien même une mère serait capable d'abandonner son enfant, et c'est rare, mais ça arrive, Dieu dit, moi, je ne vous abandonnerai pas. Même à un autre moment, il va dire, quand votre enfant vous demande de bonnes choses, vous ne donnez pas un scorpion, ou il vous demande à manger, vous lui donnez de bonnes choses, et Jésus dit, à combien plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera de bonnes choses. Notre Père, notre Dieu, il nous aime. Et parce qu'il m'aime, ça met de l'assurance dans mon cœur. Oh, croire que Dieu peut tout, c'est facile. Oui, on arrive à croire qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un Dieu tout-puissant. Maintenant, la question, il y en a qui vont dire, bon, ben, que Dieu puisse tout, d'accord, mais est-ce qu'il veut? Il y en a qui vont dire, que Dieu soit capable de guérir, d'accord, mais est-ce qu'il veut me guérir? Que Dieu soit capable de faire des miracles, d'accord, mais est-ce qu'il veut agir dans ma vie? Moi, je sais qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime, je sais qu'il veut du bien pour moi. Non? Quand on est convaincu de l'amour de Dieu, ça met de l'assurance dans notre cœur. Et même cette assurance que peuvent me faire des hommes. Oh, si on attend de l'amour de la part des hommes, on en aura peut-être un peu. On risque d'être déçu quelquefois, mais Dieu jamais nous décevra. Son amour dure à jamais, à toujours. Je ne sais pas pourquoi des fois on dit à jamais, à toujours. En fait, ça veut dire la même chose. Son amour dure à toujours. Ça dure toujours. Son amour dure à jamais. Peut-être parce que l'infini, c'est aussi bien toujours que jamais. Bon, je referme ma parenthèse. On continue au verset 7. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Oula. Les ennemis arrivent. Alléluia. Les problèmes arrivent. Merci Seigneur. C'est comme ça que ça se passe chez vous? Je me réjouis. C'est bien ça qui est marqué. Hein? Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mes ennemis viennent sur moi, ça me réjouit. Ah bon, comment il est fait là pour écrire un psaume comme ça? Parce que je sais que Dieu m'aime. Et l'amour de Dieu met dans mon cœur de l'assurance. Oh, il y a des problèmes qui s'en viennent, il y a des ennemis qui s'en viennent, mais Dieu est avec moi. Il est plus fort. Et il me donne de la paix, de l'assurance, et même il console, il rassure, et il me dit, ne crains point, crois seulement. Et même, on est capable de se réjouir, parce que, au-delà de nos ennemis, on voit comme plus loin que les ennemis qui viennent, on voit comme plus loin que la bataille, on voit ce qui va se passer après la bataille, la victoire et ses conséquences. Oh, dans le combat, on prend des coups, mais la victoire. Vous savez, dans un match de boxe, ça, je suis pas un boxeur, moi, des fois, j'ai du mal à comprendre comment ils font pour aller sur un ring juste pour prendre des coups. Mais enfin, je suppose que quand ils sont là en train de se frapper puis qu'ils se prennent un coup sur la tête, ils se disent, il y a une coupe derrière. Il y a des millions de dollars derrière. C'est un peu de ça. Hein. Ça qui les motive. C'est la coupe, c'est la médaille, c'est la gloire, c'est l'argent, c'est la prime. Ils ne pensent pas au coup sur le moment en disant « Aïe, si j'avais su, je ne serais pas venu. » Non, ils savent bien qu'ils vont prendre des coups, mais ils regardent plus loin. Quand l'ennemi vient sur nous, nous pouvons nous réjouir parce qu'on sait qu'avec Dieu, même si c'est des ennemis qui viennent sur nous, il va en sortir quelque chose de bon. Est-ce que c'est pas ce que dit l'apôtre Paul aux Romains, un verset que les chrétiens connaissent, enfin je pense, Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Les ennemis viennent sur moi. Attention, là il y a le verbe, et le verbe c'est « concourir ». Pas un verbe qu'on utilise souvent, d'accord? Mais ça ne veut pas dire « toute chose, ça fait du bien ». Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Il ne dit pas « toute chose, ça va vous faire du bien ». Maintenant que vous êtes chrétien, maintenant que vous êtes rentré dans la maison de Dieu, maintenant que vous avez donné votre vie à Dieu, il y a du bien dans votre vie. La vie, c'est un pétale de rose. L'hiver sera 22 degrés. Tout est beau. Non? Moins 22. C'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est pas parce qu'on devient chrétien qu'il va faire plus chaud dehors, hein, ou que les problèmes vont pas être là. Mais ça concourt. Dans le sens que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des embûches, Dieu est celui qui transforme ça en bien. Et que en bout de course, ça veut dire ça finalement, en bout de course, finalement, en conclusion, il en ressort du bon. C'est ce que Joseph va dire à ses frères. Vous savez, des fois, on est un peu... On dit, ah ben Joseph, oui, bon, ben, il est vendu par ses frères, c'est pour son bien. D'accord ? Il se retrouve là en prison, c'est pour son bien. Bon. Il se retrouve là abandonné de tous, c'est pour son bien. Non. C'est pour son mal que ses frères l'ont vendu, c'est pas pour son bien. Ils l'ont pas vendu comme esclave en disant, ça va te faire du bien, mon petit, ils voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer, ils ont eu quelques scrupules à tuer quand même, heureusement que Ruben était là, sinon il serait mort. Dieu a protégé quelque part la vie de Joseph, mais c'est pas pour son bien. Certains vont dire, oui, mais ça c'est parce que Dieu est en train de faire une bonne leçon à Joseph, parce qu'il était un peu trop vantard. Parce qu'il allait voir ses frères en disant, moi je, j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision, et Dieu doit amener Joseph dans le creuset pour qu'il apprenne ce que c'est que la vie. Je sais pas si c'est votre conception. Si Dieu doit nous amener constamment dans le creuset comme ça, non, Joseph lui-même nous donne la conclusion à la fin de sa vie. Quand il retrouve ses frères, et que là, ses frères sont de nouveau avec lui, même ils sont allés chercher son père est là, Benjamin, le plus jeune fils, est venu aussi, que Benjamin que Joseph ne connaissait pas, et quand tout le monde est là, Joseph va dire, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Parce que la conclusion de l'histoire, c'est que si la vie de Joseph ne s'était pas ainsi déroulée, eh bien toute la famille serait morte de faim à cause de la famine. Mais parce que Joseph, à cause des circonstances, est arrivé là comme second de toute l'Égypte à la droite de Pharaon, eh bien ça a béni l'Égypte et ça a sauvé sa famille. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Dieu a mis du bon là-dedans. Et Dieu transforme ça en bien. Alors quand les ennemis viennent, on peut se réjouir. Des fois je dis, mais c'est bon, faut que je me fasse bien comprendre, parce qu'il n'y a rien d'irrespectueux là-dedans, mais des fois c'est un peu comme le judo. Je sais pas, je suis pas un expert en arts martiaux, comme le judo ou le karaté. Je dis, des fois le Seigneur il veut faire ça avec nous. Ou que nous on fasse ça avec notre ennemi. Je suis pas un expert, je sais pas comment ça marche, mais j'ai cru comprendre que dans le judo, on utilise la force de l'autre. Que quand l'autre vient vous attaquer, vous utilisez son mouvement, et c'est lui, en fait, qui donne toute la force, et vous utilisez sa force pour que ça se retourne contre lui. C'est pas comme ça que ça marche? C'est ce que j'ai bien compris? Sinon, j'irai reprendre des cours. Ben, avec Dieu, c'est ce qui se passe. Si votre ennemi vient fort, ça va se retourner fort contre lui. Si votre ennemi vient fort contre vous, avec Dieu, on renverse sa vapeur. Rien à craindre. Le bouclier de la foi permet d'éteindre les traits enflammés du malin. L'ennemi a projeté de nous faire du mal, ben je me réjouis que mon ennemi vienne. Parce que ça va rendre gloire à Dieu et manifester toute la gloire de Dieu. On était au verset 7. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Oh, l'homme n'est pas fiable, mais Dieu est fiable. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Que votre secours, que votre paix, que votre appui soit auprès de Dieu ce matin encore. Cherchez pas votre appui près des hommes, même si ce sont des grands. Cherchez votre appui auprès de Dieu. Et voilà qu'il va dire, toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Toutes les nations, hein. Dis pas seulement, il y en avait 3-4 qui sont venus m'attaquer. Non, toutes les nations. On est là en Israël, imaginez, toute l'Égypte, la Syrie, tout le monde là. Tyr, Sidon, tous les ennemis là, les Philistins un petit peu qui restent. Tous ceux qui sont là m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. S'il les taille en pièces, qu'est-ce qui reste? Rien. Elle m'environnait, m'enveloppait, et il répète, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. 3 fois. Au nom de l'Éternel, je. Pourquoi il dit je? Il devrait dire, Au nom de l'Éternel, l'Éternel les taille en pièces. Mais non, puisqu'il dit au nom. Au nom, ça veut dire représentant l'Éternel. Au nom de la loi, vous avez l'air d'être bien au courant, au nom de la loi. Ou quand quelqu'un vient au nom de quelqu'un, hein, je viens de la part du Premier ministre, vous dire que, ben, quand la personne parle, c'est le Premier ministre qui parle, parce qu'elle vient en son nom. C'est le principe d'ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs de Christ, et là, quand il dit au nom de l'Éternel, ça veut dire que c'est comme si Dieu me mandate, c'est Dieu qui me donne la force. C'est pas moi qui taille en pièces, mais c'est l'Éternel qui taille en pièces au travers de moi en m'utilisant. Au nom de l'Éternel, je. Mais il y a un je. Et nous, on aimerait que ça se passe tout seul sans nous. Seigneur, les ennemis viennent vers moi, moi je veux fermer les yeux, puis quand je les ouvre, ils sont tous partis. C'est très pratique, hein. Seigneur, il y a des problèmes, je ferme les yeux, puis quand je les ouvre, je vais aller me coucher, puis demain matin, quand je me réveille, tout soit réglé. Les factures soient payées, la maladie soit partie, la voiture se remet à fonctionner, tout va bien. Il y a un jeu. Il faut s'impliquer et il faut agir. Mais l'Éternel nous aide et il veut nous faire agir et il veut nous donner la force. Il y a un combat. Il combat avec nous, mais avec nous. Il combat pour nous, il combat avec nous. Mais là, on voit cette détermination de dire « parce que je sais que Dieu m'aime ». Parce que j'ai cette assurance, cette conviction que sa miséricorde durera toujours. Parce que je sais que le secours ne se trouve pas dans les hommes, ne se trouve pas dans les grands. Je peux, au nom de l'Éternel, tailler en pièces mes ennemis. Ça, c'est une position de foi. Parce que cette foi, elle est appuyée sur qui est Dieu et sur son amour. Parce que deux choses, je sais qui il est, sa grandeur et sa puissance, et je sais qu'il m'aime. Et parce que je sais qu'il m'aime, qu'il n'abandonnera pas son enfant, qu'il ne me laissera pas aux mains de l'ennemi, je peux, au nom de l'Éternel, aller tailler en pièces l'ennemi. Vous êtes d'accord avec ça? Prenez David. David va, au nom de l'Éternel, devant Goliath. Disait ça avec les jeunes il y a quelque temps, s'ils s'en souviennent. David va devant Goliath, au nom de l'Éternel. Et il vient en disant, au nom de l'Éternel, je vais te couper la tête. David. Mais qui a demandé à David d'y aller? Vous savez, nous, bien souvent, dans notre génération, on dit là, attention, il faut prier, David, il faut que tu pries, tu prennes du recul, que tu demandes à Dieu ce qu'il faut faire, puis quand Dieu t'aura parlé, quand Dieu t'aura montré, quand Dieu te dira, vas-y David, tu iras. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Quand on lit l'histoire de David et Goliath, David y va franco. Il n'attend pas que Dieu lui dise « Vas-y !» Mais il y va, mais quand il y va, il dit « Au nom de l'Éternel !» Mais David n'a pas eu un ange qui est venu le voir en disant « Vas-y David !» David n'a pas eu une vision, David n'a pas eu une prophétie, David n'a pas eu une révélation, mais il y va. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Et il ne supporte pas que le nom de Dieu soit blasphémé par Goliath, ce Philistin. Qui est ce Philistin pour outrager le nom de Dieu comme ça? Au nom de l'Éternel, j'y vais. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Et bien souvent, nous, pour reconnaître que nous cherchons des révélations, des visions, des songes, des prophéties, on aimerait que Dieu là, nous envoie vraiment tout un mode d'emploi, tout un guide, et on dit « je ne sais pas quoi faire, il faut que le Seigneur me montre ». Si on apprend à mieux connaître qui est Dieu et quel est son amour, eh bien cette assurance qui est dans notre cœur va nous permettre de prendre de l'initiative, des bonnes initiatives. Et David prend l'initiative quand il va contre Goliath. Et Dieu est avec lui. C'est la même initiative qui se passe avec Josué. Dieu dit à Josué, Josué chapitre 1, Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, ton cœur, repasse-le, médite-le. D'accord? Et qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Tout ce que tu entreprendras réussira. Dieu dit, voilà la condition, Josué, que cette parole soit sur ton cœur, que tu cherches à me connaître, que tu médites cette parole, et tout ce que tu entreprendras entreprendre. Pas tout ce que je vais te montrer, tout ce que je vais te dire. Non, tout ce que tu entreprendras, selon la révélation de la parole, selon la connaissance que tu auras, parce que tu sais combien Dieu est grand, combien Dieu est amour, tout ce que tu feras réussira. C'est important, ce matin encore, d'être convaincu de la puissance de Dieu, mais pas seulement de sa puissance, d'être convaincu de son amour. Au verset 13, « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. » Le diable est celui qui veut nous faire tomber. « Tu me poussais pour me faire tomber, je ne suis pas dupe, je le vois, je réalise, mais c'est l'Éternel qui m'a secouru. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges, il est devenu mon salut. » Il est devenu mon salut. Il est devenu mon Yeshua. Il est devenu mon Jésus. C'est ce qui est marqué dans le texte. Mon salut. C'est le même mot, Jésus. Il est devenu mon salut et Jésus est notre salut. Celui que Dieu a donné. Afin que nous ne soyons plus là dans la crainte et le doute, mais que le besoin d'amour que tous les hommes ont soit pourvu en Jésus. Il nous aime. Il aime l'Église. Les maris sont invités à aimer leur femme selon le modèle d'amour que Christ a aimé l'Église. Il aime l'Église. Dieu a tant aimé le monde. Christ est celui qui nous aime, qui aime l'Église. Qu'on puisse avoir ce matin, avoir cette conviction. Il nous aime. Peut-être quelqu'un sera tenté de dire, oui, mais il nous aime, mais vous ne connaissez pas la situation dans laquelle je suis. Vous ne connaissez pas la situation dans laquelle je suis. Il ne peut pas m'aimer dans la situation dans laquelle je suis. Non. Non, l'amour, c'est pas ça. C'est un petit peu comme si un enfant disait « Moi, mes parents, ils peuvent pas m'aimer parce que je viens de faire une bêtise. » Ça veut pas dire que les parents vont être contents de la bêtise. Hein. Mais l'amour, ça dépend pas des bêtises. Ou des. Si, vous aimez vos enfants en fonction des notes qu'ils vous ramènent à la maison. C'est comme ça que vous fonctionnez. Si tu ramènes des bonnes notes, je vais t'aimer. Si tu ramènes pas de bonnes notes, je vais pas t'aimer. Si tu fais bien, si tu ranges bien tes affaires, tu auras de l'amour. Si tu ranges pas, tu en auras pas. Non, l'amour, c'est pas ça. On les aime sans rien leur demander. Maintenant, ça réjouit notre cœur, évidemment. C'est pareil avec Dieu. Dieu vous aime. Quoi que vous ayez fait, qui que vous soyez, quel que soit votre état, comme ce père qui attend le retour du fils prodigue. Pourquoi ? Parce qu'il aime son fils. Même si ce fils est allé dans une bien mauvaise voie, Dieu vous aime ce matin encore. Qu'on puisse réaliser que son amour dure à toujours. Et parce qu'il nous aime, on peut s'approcher de lui. On peut dire, Seigneur, que ton amour encore puisse venir me convaincre, puisse venir me donner de l'assurance, puisse venir consoler, puisse venir me donner de la force et m'aider à réjouir ton cœur. Parce que je sais que tu m'aimes. Je veux t'aimer en retour. Parce que tu me montres autant d'amour, tu me montres autant de bienfaits, de miséricorde à mon égard. Moi, je veux t'aimer en retour. J'aimerais lire 2 Corinthiens 6, 11, si vous voulez bien lire avec moi. 2 Corinthiens 6, 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, mon cœur s'est élargi pour vous. Mais Dieu n'a pas besoin que son cœur s'élargisse. Il est déjà ouvert. Il est déjà large. Dieu nous aime d'un amour parfait. Les hommes ont besoin d'apprendre à aimer de la même manière que cet amour. En tout cas, là, l'apôtre Paul va dire, rendez-nous l'appareil. La même manière que nous, nous vous aimons. Vous aussi, élargissez votre cœur. La question que l'on peut se poser ce matin par rapport à Dieu, c'est de dire si Dieu nous aime autant, nous, nous l'aimons comment? Quand on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement de toute la loi? Il va répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de de tout ton cœur. Qu'on peut se dire, Seigneur, toi, ton amour, il ne change pas. Ton amour durera toujours. Ton amour est fort, ton amour est grand, ton amour est inconditionnel, ton amour est parfait. Aide-nous ce matin à t'aimer en retour, à t'aimer comme toi tu nous aimes. Peut-être quelqu'un n'a jamais aimé Dieu et même au contraire avait toutes sortes de raisons pour dire, moi, vu ce qui se passe dans ma vie, je ne crois pas que Dieu m'aime. C'est pas vrai. C'est pas ce que tu vois. Tu dis, oui, mais quand même, là, avec tout ce qui se passe, il y a que du mauvais. Non, Dieu t'aime. Et malgré les circonstances pénibles, malgré les circonstances difficiles, Dieu est là pour t'aider et pour que ces circonstances concourent à ton bien et qu'il en sorte quelque chose de bon. Quand on est là dans des situations pénibles et qu'on a de l'amertume, quand on est là en colère contre Dieu, quelque part on se détruit soi-même. Mais quand on se tourne vers Dieu, il est celui qui restaure, qui console, qui panse les plaies. Bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de notre sœur Diane. Et les circonstances ne sont pas faciles. Il faut dire quand même, là, si Dieu m'aimait, ça ne se passerait pas comme ça. Non, je sais que Dieu m'aime. Et ce n'est pas ça qui va me... Vous savez, les enfants ne vont pas dire, moi je sais que ma maman m'aime parce qu'elle me donne des bonbons. Ou parce qu'elle me fait du... Non. Même s'il y a des circonstances. Vous savez, des fois, il y a des familles, vous allez dans des pays pauvres, où les parents donnent même pas à manger à leurs enfants. Vous allez dire, oui, mais Dieu, c'est pas pareil, il peut tout donner, d'accord. Mais je prends juste cette image pour dire que des fois, il y a des contextes qui sont là, mais l'amour est manifesté pareil. Et il y a des choses qu'on peut pas expliquer dans le monde dans lequel on est. Mais Dieu est là, ça c'est sûr. Il vous aime.
Enseigne-moi.com
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.